CFM en Tarn-et-Garonne, le mag.
Bonjour, bonjour. Dans ce mag aujourd'hui, on vous proposera une rencontre avec Diane Meur. Elle est traductrice et romancière et est invitée dans le cadre du festival littéraire Lettres d'automne, le festival de Confluence qui a lieu en ce moment même. On pourra rencontrer Diane Meur ce samedi à 16h30 à l'ancien collège de Montauban sur le thème donc mélodie et variation. On va parler du lien entre musique, écriture et traduction puisque Diane Meur est traductrice et romancière. Mais avant ça, un appel.
CFM.
Un appel à rassemblement ce jeudi à 10h devant le tribunal de police de Montauban en soutien à Frédéric Dureau. Il est convoqué au tribunal dans le cadre d'une affaire de distribution de tracts sur le marché de Saint-Antonin-Nobleval en avril. La distribution de tracts avait été interdite par arrêté municipal au motif de la crise sanitaire. Devant moi, un distributeur de tracts avéré, militant syndical Philippe Saunier. Bonjour.
Bonjour.
Vous connaissez la réglementation sur la distribution de tracts ?
Oui, en fait, la réglementation sur les distributions de tracts, elle est assez simple. C'est la loi sur la presse. Donc, elle va s'intéresser non pas au fait de distribuer le tract en lui-même, mais à son contenu. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de diffamation, d'accusation mensongère, d'appel à la haine ou la violence, on est dans le cadre de la loi sur la presse. Il n'y a pas d'interdiction particulière dans la loi en ce qui concerne les distributions de tracts. C'est assez simple.
Elle avait été interdite par arrêté municipal.
Elle a été arrêtée. Elle a été interdite par un arrêté municipal extraordinaire, puisque quand on regarde la jurisprudence, on ne trouve pas grand-chose de comparable au motif de la crise sanitaire. Alors ça, c'est assez original, puisque cet arrêté municipal en question ne vise que les tracts. Si vous distribuez des prospectus commerciaux, par exemple, sur le marché de Saint-Antonin, c'est autorisé. Donc là, on voit bien que c'est ciblé, et c'est ciblé de façon particulièrement original, pour ne pas en dire plus.
Alors Frédéric Dureau a fait un petit pied de nez quand même à cet arrêté municipal en le distribuant lui-même.
Alors il a distribué quelque chose qui est particulier puisque la définition d'un tract, c'est une feuille de propagande. C'est la définition qu'on va trouver dans tous les dictionnaires. Et là, en l'occurrence, il n'a pas distribué de tracts. Donc, déjà, c'est un premier problème par rapport à sa verbalisation, puisque ce qu'il a distribué pour le faire connaître à la population, en guise de, comme citoyen, je dirais, c'est précisément non pas un tract, mais l'arrêté municipal brut de fonderie sans commentaire qui interdit la distribution de tracts. Donc, est-ce qu'un arrêté municipal est un tract ? Évidemment, non.
Il a tracté l'arrêté municipal interdisant le tractage, sous motif donc de crise sanitaire. Le but était de ne pas provoquer de rassemblement. C'est peut-être pour ça qu'il est convoqué au tribunal de police.
Oui, alors le mot tracté, c'est pas français. C'est la diffusion. Et la diffusion, c'est comme ça que c'est écrit dans l'arrêté municipal. C'est pas ni moi ni lui qui l'avons écrit. C'est le maire et le conseil municipal. L'interdiction stricte est limitée à la diffusion de tracts. Donc si on regarde la définition d'un tract, il n'est pas dedans, hein. J'ai pris l'exemple des prospectus commerciaux, ils sont en dehors de l'arrêté. Et un arrêté municipal, et évidemment, je ne sais pas qui pourrait nous dire le contraire, mais on verra la décision des juges, évidemment. Extrapoler un arrêté municipal à un tract, je ne vois pas personnellement, hein, je laisse bien sûr les juges juger, je ne vois pas personnellement comment on pourrait le faire. Alors dans un contexte quand même particulier, d'une part parce qu'en France, on a vu ça nulle part, il y a une décision dans une autre commune d'interdiction de tract pour trouble à l'ordre public. On n'est pas tout à fait, on n'est quand même pas dans la même configuration. Et puis, il faut que le motif soit valable. Il faut le limiter dans le temps, il faut le limiter dans l'espace, cette interdiction. Bon, si le maire ne s'était pas accroché pour d'autres motifs qui sont le contenu des tracts, précédemment, quelques jours avant cette sortie d'arrêté municipal, c'est sûr que on serait plus enclin à croire finalement à ce motif de crise sanitaire qu'on a quand même bien du mal, bien du mal à accepter.
Philippe Saunier, vous lancez un rendez-vous donc en soutien à Frédéric Dureau, donc, qui est convoqué au tribunal de police. Donc, c'est ce jeudi 25 à partir de 10h devant le tribunal de police de Montauban. Est-ce que vous n'avez pas peur, justement, là encore, de créer du trouble à l'ordre public et un rassemblement ?
Alors, c'est pas un appel à rassemblement, on a simplement dit que les séances en France, la justice est rendue au nom du peuple et devant le peuple, les audiences sont publiques, théoriquement, et qu'une situation aussi extravagante mérite précisément d'être placée sous le regard du peuple. Donc c'est bien pour ça, effectivement, c'est pas un appel à rassemblement, c'est un appel à exercer son rôle de citoyen et son droit de regard sur la justice telle qu'elle doit être rendue. Dans notre pays, effectivement, c'est jeudi 25 à 10h au tribunal de police.
Philippe Saunier, militant syndical pour la CGT, merci beaucoup.
Merci à vous.
Et après la musique dans ce mag, on reste à Montauban, cette fois-ci à l'ancien collège, pour une rencontre avec Diane Meur. Ce samedi, elle est traductrice et romancière, invitée dans le cadre du festival Lettres d'automne, le festival littéraire de Confluence, à propos du lien entre la musique, l'écriture et la traduction, puisque Diane Meur est écrivain et traductrice.
It's true. They got a message from the action man. I'm happy. Hope you're happy too. I've loved all of needed love. Saw the details fall away. The shaking when nothing is giving. Just glitters of jab goes in synthesis. And I ain't got no money. But I'm hoping to kick but the planet is glowing. Ashes to ash and fuck to fuck it. We know Major Tom's a junkie. Strung out in heaven's mind. Hitting an all-time low.
TFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Jusqu'au 28 novembre, le festival Lettres d'automne, le festival littéraire de Confluence, nous convie à de très nombreux rendez-vous, des rencontres, des lectures en scène, des concerts, des spectacles, du cinéma, des expositions, pour le jeune public, de la librairie pour le festival. Et au programme de ce samedi 27 novembre, on va avoir droit à une rencontre avec Diane Meur. Bonjour Diane.
Bonjour.
Vous êtes traductrice et romancière. Vous allez intervenir avec Mathias Hénard, l'invité d'honneur de ce festival, autour d'écriture, traduction et variation. La traduction, c'est votre dada avant l'écriture en elle-même. Vous faites d'ailleurs partie de l'Association des traducteurs littéraires de France.
J'ai même été officiellement traductrice avant de devenir romancière, même si j'avais déjà écrit des romans, ils n'étaient pas encore publiés. Et donc, la traduction a été mon unique métier pendant un certain nombre d'années. Ensuite, les deux se sont superposés. Quoi. Voilà.
22 traductions et 8 romans à votre compte.
Moi, j'ai pas compté, donc je vous fais confiance.
J'ai passé un certain temps, oui.
Oui, c'est vrai. Enfin, il y avait peut-être 22 titres traduits, mais j'ai aussi traduit des multitudes d'articles plus courts dans des revues universitaires ou scientifiques.
Alors,
ou alors des nouvelles à l'intérieur de recueils traduits par plusieurs mains. Enfin, ben, donc je pense que ça fait, c'est peut-être 22 titres, mais ça fait beaucoup plus de en nombre de pages, ça fait beaucoup plus. Hein.
Sur des traductions dans des domaines tels que la philosophie, les sciences, les théories de la musique aussi, et les compositeurs, hein, la musique et les mots.
Oui, absolument. En fait, la musique, enfin le thème de la musique a été un des premiers livres que j'ai traduit était constitué des écrits d'un compositeur. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps. À vrai dire, je suis aussi musicienne, enfin cadre amateur. Hein, j'ai fait pas mal de musique quand j'étais.
C'est indissociable, la musique et les mots.
Les mots sont, avant d'être écrits, historiquement, les mots ont été l'oralité première. Donc pour moi, les mots gardent toujours leur matérialité sonore. Et c'est vrai que même quand j'écris ou quand je traduis, d'ailleurs, c'est pas que je me dis les phrases à haute voix, mais elles résonnent dans ma tête. Enfin, je les entends et parfois il m'arrive de modifier un mot, un adjectif, simplement parce que ça ne sonne pas bien. Enfin, ça détonne, c'est pas dans le ton.
Le rythme aussi des mots dans les différentes langues n'est certainement pas le même.
Le rythme est très important et je dirais, il y a aussi quelque chose qui peut paraître un peu plus affreux, c'est le rythme du sens en fait. Parfois si on ne respecte pas, je prends surtout un texte argumentatif ou théorique ou scientifique, si on ne respecte pas le phrasé d'une démonstration, si elle n'est pas dans le bon ordre, eh bien, le lecteur va moins comprendre que le lecteur de l'original. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça me paraît quelque chose de très, très... Il y a une question de la fluidité très importante, le fait que certains mots qui résonnent ensemble dans l'original, parce que c'est la même famille, par exemple, doivent résonner de la même façon dans le texte arrivé, parce que sinon, mais c'est comme si un fil mélodique se perdait, quoi. Et donc, le lecteur est perdu. Donc, oui, il y a beaucoup de musique et de sonorité, quoi, dans... Ce que je dis, c'est valable aussi bien pour l'écriture que pour la traduction. Enfin, pour moi, à un certain niveau, c'est un peu le même travail. Même si ça ferait hurler beaucoup de gens. Mais je pense que la traduction est une écriture et que l'écriture, d'une certaine façon, est aussi une traduction. Mais ça, c'est un autre sujet qui nous éloigne peut-être un peu de la musique.
Oula, mais alors là, vous m'intriguez quand même. L'écriture est une traduction ?
Oui, c'est une impression que j'ai, parce que quand j'écris... Je n'y arrive pas tout de suite, je fais beaucoup de versions, j'essaie d'aller vers quelque chose et j'essaie en fait de traduire une idée, un projet que j'ai en tête et d'en arriver au plus près. Mais j'y arrive par approximation successive et finalement c'est un petit peu comme essayer de traduire quelque chose qui est encore à l'état latent, qui n'est pas encore verbalisé mais qui est là, qui existe. Et de. Oui, je ne peux pas le définir autrement que comme une sorte de traduction de. De mon projet ou de l'idée préalable qui serait dans ma tête mais encore en germe quoi. Enfin.
Vous devez avoir un gros dictionnaire de synonymes sur votre table de chevet.
Je crois qu'il est plutôt dans ma tête aussi.
c'est vrai
que les. En fait, je me sers surtout des dictionnaires et synonymes dans les langues étrangères. Non, en français, j'en ai pas trop besoin. Le petit Robert dont je me sers le plus. Attention, parce que là, je suis en train de faire la publicité. Enfin, le petit Robert donne plutôt des antonymes, mais c'est très utile en fait, parce que ça va vous faire passer par des tours, vous passer par les par le contraire de. En fait, quand je suis en plage de travail, au moment où je suis vraiment dedans, j'ai l'impression que tous les mots que je connais, tout mon bagage verbal, il est là en suspension dans ma tête, que je peux attraper les mots. Ils sont disponibles, quoi. Alors que, bon, si j'ai pu travailler depuis un certain temps, enfin, disons, quand je suis en vacances ou que je passe un certain temps à faire autre chose, les mots sont loin de moi. Je mets du temps à les retrouver. Je n'ai pas cette... comment dire, ces façons de jongler justement avec les synonymes ou avec les mots d'une même famille ou comment dire...
Et d'une langue à l'autre, c'est pareil? Par exemple, de français vers l'allemand et l'allemand vers le français, c'est la même démarche?
Moi, je ne traduis pas vers l'allemand. Enfin, en tout cas, ce n'est pas mon métier. Quand on est traducteur littéraire, en général, on me traduit vers sa langue maternelle. Très peu de gens sont vraiment bilingues en fait, donc moi je ne suis pas, hein. Moi j'ai appris l'allemand, j'ai appris l'anglais à l'école, donc je traduis toujours de l'anglais ou de l'allemand vers le français. Bon, il m'arrivait de le faire dans l'autre sens, mais c'était plutôt une sorte d'exercice, c'était pas du tout, comment dire, je ne traduirais pas mes propres livres dans une des langues étrangères que je connais, le résultat serait pas du tout satisfaisant.
Ah bon ?
Ce qui va peut-être vous être... Non, c'est pas du tout. Je ne suis pas formée pour ça, en fait. Et je pense quand même qu'on a un rapport à la langue maternelle qui n'est pas du tout celui qu'on peut avoir avec une langue apprise.
Et comment est-ce que l'auteur peut estimer que la traduction est bonne ou pas? Il ne peut pas, c'est à l'éditeur d'émettre un jugement ou à l'association des traducteurs littéraires, peut-être?
Il doit faire confiance à autrui, il peut peut-être demander il connaît peut-être des gens qui eux lisent la langue et qui peuvent lui donner un avis dessus, mais en général l'éditeur sait ce qu'il fait, enfin je veux dire, s'il publie un livre c'est qu'il estime qu'il aurait bien traduit, que ça correspond au... Alors là vous me posez un petit peu une colle. Bon, il se trouve qu'un de mes livres a été traduit en suédois, je fais entièrement confiance au traducteur parce qu'on a beaucoup échangé à ce sujet et tout le monde me dit beaucoup de bien de la traduction, donc j'ai confiance.
Et les traducteurs comme les auteurs ont-ils des domaines de prédilection?
Par exemple, je
bah pour vous, par
je
exemple.
Pourrais très difficilement traduire un texte que je ne comprendrais pas.
Ça semble logique, en fait. C'est ma question qui était idiote.
Je vous les squatte. Mais oui, par exemple, si on me donne à traduire un article... De physique ou de médecine ou de droit international, et ben je vais avoir énormément de mal à le traduire parce que je ne comprendrai pas certains termes, je comprendrai probablement de travers des phrases qui me paraissent claires parce que la terminologie, je ne la maîtrise pas. Je parle d'un texte français, hein, y a plein de domaines dans lesquels nous ne sommes pas compétents, et donc je suis. Normalement, un traducteur qui a un petit peu d'éthique professionnelle, il ne va pas traduire un texte qu'il ne comprend pas.
Mmh. Ça semble logique.
Bizarrement, on fait faire par des machines et les honneurs de ne pas se poser le même genre de questions, mais j'ai un petit peu des doutes sur les résultats, en fait. Parce que on sent très bien quand le traducteur ne comprenait pas ce qu'il traduisait, en fait. L'aboutissement est incompréhensible aussi. Enfin,
alors déjà incompréhensible, et puis il manque forcément la musique, le rythme et le choix des mots. C'est ce qui fait tout le talent d'un traducteur. En tout cas avec Mathias Sénard, ce samedi 27. Mathias Sénard qui donc lui-même parle plusieurs langues. Il a traduit de l'arabe, du persan, de l'espagnol. Vous allez dialoguer au sujet des liens qui se tissent entre la musique, l'écriture, la traduction. Alors en avant-goût, des liens tels que, même si on vient de le développer pendant 10 minutes.
Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement le tressage entre ces trois thèmes, en fait.
Qui est
pas seulement les mettre les uns à côté des autres, mais les entrelacer, en fait, voir comment... déjà, moi, j'aimerais bien aborder le fait que quand j'écris, en fait, j'écris des romans, enfin, presque uniquement des romans. Je pense souvent composition au sens musical, en fait. Et j'espère qu'on va pouvoir parler de ça, parce que Mathias César aussi s'y connaît en musique. On va probablement aborder... Oui, enfin, je pense vraiment au sens de la composition musicale, comment faire revenir un thème à un certain moment, comment on peut le varier, mais vraiment au sens musicologique, comment on passe du majeur au mineur, enfin, des choses comme ça. Et en fait, je pense peut-être qu'il m'a amené à cette sensibilité, c'est... Bon, forcément, j'ai traduit des compositeurs et que je suis musicienne, mais c'est aussi que quand on traduit, on apporte énormément d'attention à la façon dont le texte a été fait, quoi. À ses ressorts, à ses... comment il fonctionne, comment il est fabriqué, au sens noble. Hein. On regarde de beaucoup plus près que le simple lecteur qui se laisse aller au plaisir de la lecture. Quand on doit traduire, souvent on doit avancer lentement, on doit beaucoup réfléchir sur chaque choix. Et du coup, on voit vraiment les rouages. Tiens, comment il a fait ça? Tiens, il y a un rappel de tel... Il emploie tel mot qui était employé dans tel contexte il y a 30 pages, et là ça revient, c'est probablement fait exprès, c'est un rappel au sens, oui, presque musical, et donc je pense que ça va, voilà.
Il doit y avoir rien de pire que la poésie à traduire.
Alors justement, honnêtement, moi j'ai fait très peu de traductions de poésie, je me sens très rarement compétente pour traduire de la poésie, parce que d'abord je ne suis pas vraiment poète moi-même, j'ai peut-être... écrit 2, 3, 4 poèmes dans ma vie, mais bon, c'est pas dire que je suis poétesse, hein. Et du coup je me sens pas tout à fait dans mon domaine de compétence, en fait, pour en traduire. Oui, j'ai l'impression que c'est un peu comme si je jouais d'un instrument que je n'ai pas appris. C'est... Oui, je trouve que c'est ce qu'il y a peut-être de plus désespérant, quoi. Déjà, traduire la philosophie, quand c'est vraiment de la philosophie, et pas de l'histoire de la philosophie, ou la description de texte philosophique, mais vraiment un texte théorique qui innove et qui tire sur le langage pour faire éclore une nouvelle pensée, c'est vraiment c'est très, très... C'est épouvantablement difficile, mais alors la poésie, je crois que c'est encore un cran au-dessus, quoi, dans la difficulté. Peut-être que c'est une pièce dans laquelle je n'ose pas entrer. Voilà.
Beaucoup de pression sur les épaules des traducteurs. Diane Meur, vous faites partie donc de l'Association des traducteurs littéraires de France. Qu'est-ce qu'elle fait, cette association?
Eh bien, elle a à cœur un peu de faire mieux connaître ce qu'est le métier de traducteur, et aussi des aspects juridiques, de contrats. Enfin, c'est pas tout à fait un syndicat, mais vous voyez, ça joue un petit peu le rôle de, voilà, d'entraide, et de faire connaître aux jeunes traducteurs quels sont leurs droits, quel statut ils peuvent choisir, voilà. Et puis surtout, c'est une façon de se retrouver entre collègues, parce que tout comme le métier d'écrire, le métier de traduire est assez solitaire au quotidien, quoi. On est seul devant son texte, qui parfois plein de personnages et plein de voix différentes, mais voilà, ce sont des voix de papier, et donc on est bien contente de se retrouver, de parler boutique, hein, ou de parler texte, en fait. Quand je suis en résidence à l'étranger et qu'il y a des auteurs qui sont aussi traducteurs parmi les autres résidents, je suis toujours très contente, parce que je sais qu'on va bien s'amuser, qu'on va avoir des histoires de texte à se raconter, des problèmes de traduction sur lesquels discuter. Enfin, c'est merveilleux.
Écriture, traduction et variation, rencontre avec vous-même, Diane Meur, en compagnie de Mathias Hénard. C'est ce samedi 27 novembre, c'est à l'ancien collège de Montauban. C'est à partir de 16h30, c'est gratuit. Sur réservation, et c'est dans le cadre du festival littéraire de Confluence, festival Lettres d'automne. Diane Meur, je vais vous laisser le mot de la fin.
Comme je fais un métier qui n'est jamais fini, le mot de la fin pour moi, c'est voilà, et ça me bloque.
Eh ben, c'est parfait comme mot de la fin. Diane Meur, un grand merci, et à samedi alors.
D'accord, merci à vous. Au revoir.
Petit bouée entièreté de ce mag, réécoutez un podcast sur notre site cfmradio.fr dans la rubrique interview, ou bien dans les rubriques le mag. On est bien dans le Tarn-et-Garonne. Ce mag sera rediffusé à 17h et à 21h30 pour l'immédiat, les infos.